Et tout de suite, c'est l'heure de On se lève et on se casse, l'émission féministe des casseuses d'ambiance de Radio Campus Paris, le 93.9 FM.
Dear fellow feminists, I'm here for all of the witches.
Pourquoi le féminisme ?
Les femmes sont conditionnées à servir les autres et à ne pas s'occuper d'elles-mêmes.
Ah, je t'avais dit, elles en veulent au mec.
Le féminisme a donné aux femmes dès qu'elles pouvaient avoir droit au bonheur.
On est dans un pays où un violeur sur 100 est condamné.
Il y a un problème avec monsieur.
Non, il n'y a pas de problème.
Nous aussi, on se lève et on se bat.
Pas du clito.
Le chemin est long en tant que femme noire, en tant que femme grosse.
Bim, c'est encore la faute du patriarcat.
Encore une fois, c'est pas de la libération de la parole, c'est de la libération de l'écoute.
Il y a une violence systémique qui est faite aux femmes.
On lève, on casse.
On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris.
Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Salut Marion, comment ça va ?
Salut Pauline, ça va très bien, merci. Ravie de te retrouver pour cette nouvelle émission.
Ben, ravie aussi, on se retrouve ce soir pour notre deuxième émission de la saison d'On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris. Et pour la première fois depuis le début de cette émission, c'est une chanteuse que nous avons avec nous ce soir.
Et oui, avec notre invitée, on va parler d'être une femme dans la musique, on va parler de féminisme intersectionnel et des discriminations liées au racisme anti-asiatique. On va parler de ce que ces combats coûtent. Mais on va aussi parler de très belles choses. On va parler de communauté, de redistribution, de santé et du féminisme joyeux et en action.
Notre invitée ce soir, c'est la chanteuse, styliste, directrice artistique et bien d'autres choses encore. T'es comme Thérèse. Bonsoir Thérèse.
Coucou tout le monde.
Vous êtes avec nous par téléphone suite à un petit imprévu et donc on est très contente que vous ayez quand même pu vous joindre à nous. Merci.
On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris.
Thérèse, donc nous disions en introduction que vous n'êtes pas seulement chanteuse, ni seulement directrice artistique. Vous êtes aussi styliste, podcasteuse, conférencière, tout un ensemble d'activités dont on va parler petit à petit dans cette émission. Vous avez sorti votre premier album solo en 2023, il est intitulé Rivalité. Racontez-nous pourquoi vous êtes devenue chanteuse.
Alors en fait, je pense que c'était un rêve de gosse, en vrai. Comme beaucoup de gens, hein, je pense. Mais j'ai pris un gros rallongé dans la vie à cause de mon éducation familiale, mais aussi par rapport à ce que la société pouvait attendre de moi en tant que bonne élève, etc. Et en fait, je suis devenue chanteuse parce que j'ai fait un burn-out il y a presque une dizaine d'années, je dirais. À l'époque, je bossais dans une grande maison de luxe parce que j'avais évidemment coché toutes les cases qu'il fallait pour faire plaisir à mes parents. Quelque part, un peu en leur rendant tout ce qu'ils ont sacrifié quelque part pour moi parce que leur vie était vraiment faite de sacrifices pour le coup. Et voilà, mes parents viennent du Laos, ils ont échappé aux communistes, à la guerre, etc. Le Laos n'était pas en guerre, mais le Vietnam l'était. Et donc, le Laos a été le pays le plus bombardé au monde. Je vous la fais courte, mais en gros, ils ont beaucoup bossé pour que je puisse ne manquer de rien, faire des études, aller donc en prépa HEC. C'était pas mon souhait, c'était le leur. Puis ensuite en école de commerce. Et en fait, j'ai fini dans une grande maison de luxe après mes études, où j'ai œuvré pendant 5 ans et demi avant de me dire « c'est pas ma vie ». Et moi, j'ai toujours rêvé de chanter. Et du coup, la France et la vie est bien faite. Et j'ai pu avoir 2 ans de chômage après ce burn-out pour me retaper d'une part et d'autre part pour essayer de donner un petit peu plus de place à mes envies à moi plutôt que celles qui nous polluent quand on grandit.
Et ça, vos envies sont hyper présentes dans votre œuvre. On va en parler petit à petit. Mais avant cet album de 2023 dont on parlait, vous faisiez partie d'un duo. Ça, c'était votre première partie de carrière qui s'appelait La Vague, avec un compositeur, c'est ça?
Oui, complètement.
C'est ça, un co-compositeur. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer en solo après ce duo-là?
En fait, ce qui s'est passé, c'est que Jonathan, dont c'était l'anniversaire hier, je viens juste de lui envoyer un texte en retard pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. C'était mon binôme et c'est quelqu'un que j'avais rencontré lors d'une jam à l'époque où je faisais plein d'open mic dans Paris. Et on s'était bien entendu et je pense qu'on avait une envie commune à ce moment-là de faire de la musique. Lui aussi avait fait des études longues, il était ingénieur dans l'informatique et en fait il avait décidé d'arrêter pour faire de la musique. Et en fait on s'est un petit peu reconnu dans ses parcours mutuels et on s'est dit on a tous les deux en fait envie de faire de la musique, pourquoi on se lancerait pas. Et donc, bah, on s'est lancé et finalement, on s'est rendu compte que moi, je regrette rien de cette aventure, loin de là. Mais je me suis rendu compte au bout d'un moment que j'avais du mal quand même à m'exprimer comme je le voulais et aborder notamment les sujets qui me tenaient à cœur, à savoir les questions de féminisme ou d'antiracisme, etc. Et il me rétorquait souvent que en fait, c'est que c'était des sujets quelque part qui le concernaient pas et qu'il se sentait pas de défendre. Et moi, plus je grandissais, plus j'avançais dans la société et plus finalement je m'engageais aussi. Et voilà, grandir, c'est aussi avoir une plus grande conscience du monde, il me semble. Et du coup, j'avais envie, à travers mon art, d'œuvrer pour et lui pas forcément, ce que je peux totalement respecter. Mais du coup, j'ai décidé de faire route à part quoi.
On va se lancer un peu dans l'étude de votre œuvre et pour ça on va écouter un tout petit extrait du titre Shonen.
J'en suis parce que je suis une femme. Si j'étais un homme, je serais déjà Orelsan. Est-ce que j'ai ça parce que je me sens mal ou juste parce que j'entends le seum? J'en suis où j'en suis parce que je suis une femme. Si j'étais un homme, je serais déjà Orelsan. Est-ce que j'ai ça parce que je me sens sale ou juste parce que je me sens seule?
Thérèse, on vient d'entendre un extrait de ton titre Shonen, issu de l'album L'Attente, sorti en mars 2024, avec cette réplique géniale « J'en suis où j'en suis parce que je suis une femme. Si j'étais un homme, je serais déjà Orelsan. » Alors dans ce morceau, tu pointes du doigt la différence de traitement dans l'industrie musicale entre les femmes et les hommes. Et pour toi, dans ton parcours, comment ça s'est matérialisé, cette discrimination liée au genre, n'ayant pas peur des mots ?
En fait, je pense que je m'en rendais pas forcément compte au départ. Moi, j'ai toujours cru qu'il y avait beaucoup de femmes dans la musique parce que j'ai admiré énormément de chanteuses et que quand je suis arrivée dans le milieu, en fait, je me suis rendu compte effectivement qu'il y avait des chanteuses. Puis je me suis rendu compte que on utilisait aussi ces femmes en tant que chanteuses comme des muses, un peu à l'ancienne, un peu comme Gainsbourg le faisait et comme plein de gens l'ont fait avant. Et je me suis rendu compte que ce rôle de muse était extrêmement enfermant parce que c'était un peu sois belle et pas tais-toi, mais chante. et puis c'est tout en fait. Et moi, je me suis rendu compte de ça petit à petit en montant mon projet, en montant le projet La Vague, parce qu'en fait, il s'avère que je manageais moi-même ce groupe. Enfin, on a eu une manageuse pendant 6 mois au début, mais ça n'a pas tellement marché. Et donc, j'ai décidé de reprendre en main le management. Je faisais aussi le booking, je faisais aussi les réseaux sociaux, toute la com, etc., etc. Bon, pas mal de choses, quoi, comme beaucoup d'artistes aujourd'hui. Et en fait, je me suis rendu compte que parfois, quand j'arrivais même sur des plateaux, en balance, etc., j'entendais des remarques comme « Oh, elle demande pas, elle, c'est la chanteuse, elle sait pas ». Et plusieurs fois, je me suis interposée en disant « Bah, écoute, Coco, moi, en fait, ce groupe, on l'a monté, on est deux, et moi, je sais patcher une scène parce qu'en fait, c'est moi qui la patche. Voilà, et j'aide Jonathan autant qu'il m'aide, voilà, et on co-compose. Et c'est moi qui suis manageuse, bookeuse, etc. Si je joue ici, c'est parce que c'est moi qui ai démarché, en fait. Et donc, arrête de dire que je sais pas, parce que je suis chanteuse. » Et ça, c'est ce genre de remarques qui sont plutôt explicites, très maladroites, souvent un peu humiliantes aussi. Mais c'est pas tout. Au départ, je me disais, ah bah si c'est entre guillemets juste ça, ce qui est déjà beaucoup, hein, c'est que du sexisme ordinaire, etc. Bon, ça peut encore passer. Mais je me suis rendu compte en avançant dans l'industrie que il n'y avait pas que ça, c'est qu'en fait on était 17% d'autrices compositrices, ça c'est des chiffres de 2023 si je ne dis pas de bêtises, inscrites à la SACEM, donc qui est l'organisme qui nous reverse des droits. On est en fait quelques leads. Et finalement, on se rend compte aussi que l'argent des subventions ne va pas nécessairement le plus aux femmes, loin de là. Mmh. En fait, on reçoit moins d'aide que des artistes hommes, alors qu'il n'y a aucune raison, puisque l'art n'est pas qu'une question de compétences, c'est aussi une question de sensibilité, une question de public aussi, qui aime notre musique ou qui n'aime pas notre musique. Et en fait, finalement, on se rend compte que sur les plus grands festivals, les têtes d'affiche en général sont des hommes, que au niveau de la programmation, il y a beaucoup moins de femmes qui sont programmées, et encore moins aux heures de pointe des festivals. Donc, en fait, c'est un énorme cercle vicieux, parce que si des femmes ne se sentent pas légitimes de faire de la musique, c'est exactement pour ces raisons. Et donc, du coup, elles ne montent pas. Et comme elles ne montent pas, suivantes ne se sentent pas légitimes. Et en fait, c'est un cercle vicieux qui dure depuis des générations et qu'on essaye de casser, mais c'est pas si simple.
Mais pour être sûr de comprendre, c'est quoi la logique expliquée derrière cette différence de distribution d'aide aux artistes masculins et féminins?
Moi, le truc que j'ai entendu le plus souvent, et j'ai trouvé ça très drôle, c'est « on ne sait pas où elles sont
». D'accord.
Ouais, mais effectivement, quand on regarde en fait les chiffres, au niveau de la pratique musicale, en fait, il y a plus de femmes qui font de la musique étant jeunes, étant petites, que des hommes, et qui ont d'ailleurs des meilleurs résultats. Et en fait, on a ce qu'on appelle dans le domaine de la musique, et partout ailleurs, je pense que l'industrie de la musique cristallise parce que du fait de sa fonction, j'ai envie de dire, dans la société, un peu cette problématique. Mais en réalité, il y a ce phénomène d'évaporation qui arrive. D'évaporation parce que il y a une forme de précarité. Comme elles sont moins aidées, elles peuvent moins continuer aussi. Si elles ne correspondent pas à certaines normes et standards pour entrer dans des grosses majors, donc dans les grosses maisons de disques, c'est-à-dire si elles n'ont pas moins de 20 ans, qu'elles font pas moins de 60 kilos et qu'elles n'ont pas tel ou tel physique, forcément elles sont déjà écartées du game. C'est ça qui se passe. Ce qui fait que elles reçoivent, elles sont moins mises en avant. Elles sont beaucoup aussi soumises à la compétition. On a toujours l'impression qu'en fait il y a de la place que pour une femme ou une femme de chaque catégorie aujourd'hui, puisqu'on commence à parler de diversité. Alors si t'es noire, faut qu'une seule femme noire. Si t'es asiatique, faut qu'une seule femme asiatique, parce que c'est bon, il y en a une. S'il y a une blonde, il faut qu'une seule blonde. S'il y a une femme dans le rock, il en faut qu'une. Et en fait, c'est ça aussi qui génère de la compétition et peut-être parfois du manque d'entraide, même si évidemment c'est en train de changer. Et il y a aussi simplement le fait que la société dans son ensemble, et donc l'industrie de la musique aussi, n'est pas pensée et structurée pour accueillir des femmes, et notamment des femmes qui dépasse la trentaine, parce que effectivement il y a d'autres problématiques qui se posent. Il y a des femmes qui veulent ou non des enfants, et en fait celles qui décident de fonder une famille reviennent très difficilement dans l'industrie. C'est extrêmement difficile parce qu'il n'y a pas nécessairement d'aide. L'intermittence est très peu à ce niveau-là. À la fois, on est très peu informé aussi, et en fait, même financièrement, il y a pas de soutien. Et donc t'as envie de te mettre en cloque et de fonder une famille, vas-y, casse-toi. Et c'est un petit peu ça. Tous ces problèmes-là, mis les uns derrière les autres, font que forcément, il y a un phénomène d'évaporation. C'est pas parce qu'elles ont moins d'ambition, c'est parce que en fait biologiquement pour le moment c'est encore, et peut-être que ça changera un jour, mais des femmes qui portent les enfants, et donc si on veut perpétuer l'humanité, je comprends pas pourquoi il faut à la fois perpétuer l'humanité et pas avoir de rêve et pas pouvoir faire le métier qu'on veut. Il faudrait au contraire qu'elles aient plus d'aide plutôt que moins, mais bon, après ça c'est le système patriarcal.
Oui, puis il faudrait une organisation des couples un peu différente. Enfin bon, c'est
ça, tout ça.
C'est vraiment à tous les étages de la société et dans tout type de milieu. Et même aujourd'hui, je trouve potentiellement les hommes les plus déconstruits ne peuvent même pas tellement pallier ce problème, tellement c'est structurel. Alors, je les encourage à le faire, évidemment, hein, mais je veux dire, c'est tellement structurel, tout ça. Les numéros d'urgence, c'est encore la mère qu'on appelle, etc., etc. C'est toujours les femmes qui doivent être sollicitées quand on parle des enfants. Voilà, et puis même, après, c'est aussi... un peu toute l'histoire de comment les femmes ont été traitées, etc., le rôle qu'on leur assigne dans la société, sans même qu'elles le demandent, qui mène à ça, en fait.
En fait, à t'écouter, on entend toutes les strates de discrimination et tout ce qui a mené à la situation d'aujourd'hui. Et ça nous a aussi fait réfléchir avec Pauline au fait qu'aujourd'hui, de moins en moins d'artistes acceptent de se dire engagés. Et toi, à t'entendre, bah, on sait que tu es engagée. Mais ça veut dire quoi, du coup, être une artiste engagée aujourd'hui ? Sur ces questions-là précisément.
C'est marrant que tu dis ça parce qu'hier j'ai fait un petit je me sers pas mal de Threads, la petite sœur d'Instagram, parce que ça me permet d'être un peu plus spontané et de pas trop réfléchir, etc. C'est pas les mêmes algorithmes, donc enfin voilà, bref, ça me permet de c'est un peu un terrain de jeu. Et je disais, faudrait peut-être arrêter d'appeler les artistes qui se soucient du monde les artistes engagés, mais plutôt appeler les autres les artistes désengagés.
Mais tellement.
Mais oui, parce qu'en fait, nous, on est, moi, j'ai pas l'impression d'être entre guillemets plus engagée que ça. Alors je vois bien que je le suis par rapport à plein de gens, mais en fait moi je me soucie juste de l'environnement dans lequel je vis, ce qui me semble être normal et pas engagé. En vrai, c'est moi je me soucie de tout ça parce que déjà je pense que j'ai une personnalité plutôt empathique, mais je crois que c'est une caractéristique qui est propre à l'être humain, donc on devrait tous et toutes plus ou moins l'être, probablement à des niveaux différents parce qu'on est tous et toutes différentes. En revanche, ce que je crois aussi, c'est que j'ai fini par être aussi engagée, je prends des gros guillemets, parce que je m'en suis rendu compte vraiment lors d'une interview. On m'a dit, mais Thérèse, tu te bats pour tout, le féminisme, l'antiracisme, tu traites les questions de validisme, d'agisme, etc. Mais comment ça se fait ? Pourquoi es-tu sur tous les fronts ? Et en fait, j'y avais jamais tellement réfléchi avant cette question, mais ce que je lui ai répondu, c'est que en fait, moi, je fais pas ça pour l'amour de la bataille et pour l'amour de la lutte. Enfin, j'aimerais être plus en paix finalement, mais j'ai pas le choix. Moi, tout ce que j'essaie de faire, c'est d'exister dans cette industrie. En fait, je coche toutes les cases que l'industrie ne souhaiterait pas que je coche, à savoir justement le fait d'être une femme, le fait d'être une femme de 38 ans aujourd'hui. Donc, moi, je suis arrivée dans l'industrie, j'avais déjà 31 ans, donc je suis arrivée périmée.
C'est très dur.
Je suis une fille de classe populaire. Voilà, donc moi, je suis une fille d'immigrée. J'ai grandi entre le 9-3 et le 9-4, en cité, etc., etc. Chose qui, finalement, je m'en rends compte, n'est pas si fréquent que ça dans la musique. Et encore moins dans la pop musique, où souvent, c'est quand même plutôt des enfants qui sont de classe moyenne, plutôt aisée, voire plus que ça. Je suis aussi... d'origine asiatique. Je suis à moitié chinoise, un quart vietnamienne et un quart laotienne d'origine, née à Ivry-sur-Seine. Et aussi, j'ai été transplantée il y a 2 ans.
Ouais, ça, on va en parler.
Une polykystose hépatorénale. Et donc, en gros, moi, si je traite de tous ces sujets-là, c'est simplement parce que je suis tout ça. C'est tout.
Oui, ça va de pair. De parler de son expérience en tant qu'artiste et de se battre pour ses doigts.
Exactement, exactement. Et en fait, c'est en fait, on nous laisse pas tellement le choix.
Ouais.
Parce que si je disais rien, probablement que je serais encore moins visible. Déjà que les artistes d'origine asiatique sont franchement pas très visibles dans cette société, mais je pense que je serais encore moins visible. Et donc, donc je pense que c'est important à un moment donné de prendre la parole, que ce soit pour soi, certes, mais aussi beaucoup pour les générations futures. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je réfléchis.
Eh bien, merci de prendre la parole.
On fait merci de la donner.
On fait une toute petite pause dans cette interview pour accueillir notre première chroniqueuse de ce soir, Alice, qui nous parle aujourd'hui de la deuxième lauréate du prix Nobel de littérature, Grazia Deledda. Salut Alice.
Bonsoir à toutes et ravie d'être de retour pour cette deuxième chronique. Et justement, le prix Nobel de littérature, il a été annoncé courant octobre. Et surprise, il a été remis à une femme pour la 18e fois. C'est la sud-coréenne Han Kang qui l'a reçu et elle devient la première femme asiatique à recevoir le prix Nobel de littérature.
Félicitations à elle. On a hâte que tu nous la présentes dans ta chronique. Mais aujourd'hui, de qui tu vas nous parler ?
Alors cette fois-ci, je vais vous présenter donc la deuxième femme à avoir reçu le prix. Elle l'a reçu en 1926, soit 17 ans après Selma Lagerlöf. Il s'agit de l'italienne Grazia Deledda. Le jury lui a remis, alors je cite, « pour son pouvoir d'écrivain, soutenu par un idéal élevé, qui dépeint la vie telle qu'elle est sur son île natale isolée et qui traite de problèmes d'intérêt général pour l'humanité avec profondeur et chaleur ». Alors, Grazia Deledda, elle naît en 1871 en Sardaigne, dans une famille plutôt aisée. Elle publie ses premiers textes à l'âge de 17 ans, et à l'époque, c'était pas très bien vu. Mais Grazia, elle veut devenir écrivaine, et elle continue à écrire tout en se formant en autodidacte. Elle rencontre son mari à Cagliari, en Sardaigne, et il déménage à Rome, où elle vit une vie plutôt recluse, et elle consacre la majorité de son temps à écrire. Ça, elle peut le faire, tout en ayant deux enfants, parce que son mari la soutient dans toutes ses activités. En fait, il va même jusqu'à quitter son travail pour se consacrer à promouvoir l'écriture de sa femme. Et du coup, tout au long de sa vie, elle a énormément écrit, pas moins de 36 romans et 250 nouvelles, jusqu'à sa mort en 1936. Roseau au vent et Elias Portoloup sont parmi ses romans les plus connus, si vous voulez la découvrir. Et moi, pour ma chronique, j'ai lu un autre de ses romans qui s'appelle Le lierre sur l'arbre mort. Il se passe au fin fond de la Sardaigne, comme la plupart de ses livres, et il raconte l'histoire d'Anessa, une jeune femme qui a été adoptée par une famille noble sur le déclin. Elle est amoureuse du fils de la famille, et la faillite de leur domaine et le manque d'argent vont lui faire commettre un acte désespéré. Alors ce roman, il m'a vraiment plongée dans l'univers de l'autrice et de la Sardaigne du début du XXe siècle. La première partie du récit explore des thèmes traditionnels de ce qu'on appelle le vérisme. Alors le vérisme, c'est un mouvement littéraire italien qui est en fait l'équivalent du naturalisme en France. Le principe, c'est de décrire la vie quotidienne d'une façon réaliste en s'attachant aux détails. Et l'objectif, c'est de refléter les réalités sociales, politiques et personnelles de l'époque. On découvre effectivement, dès les premières pages, le folklore sarde, les traditions et les paysages qui plantent le décor. Puis, la bascule se fait vers un roman plus psychologique qui va explorer les thématiques de la transgression, de la culpabilité et de la rédemption. Vous l'aurez compris, pour voyager au cœur de la Sardaigne et frissonner en explorant les bas-fonds de l'âme humaine, je vous conseille vraiment de le découvrir.
J'y connais rien du tout en littérature italienne et de la Sardaigne, mais ça donne effectivement très envie de le lire. Merci beaucoup, Alice.
Merci.
On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris.
Chinoise, Shenli, massage, poli, soumise, Oliu Komi Katsuni. Chinese, money, femme tigre, Gucci, Lucy, le Gongli 2020 vit ma vie. Shintok, connerie, manga, bar tabac, Jackie Chan, Bruce Lee, tu tabassis, souris. Mateux, mafieux, mini, zizi, virus et qui casse ton riche de laser, mi.
Je crois cachée, mâchée dans mon menu B3. Les Balkans et j'en ferai du fa. Aussi la charme comme Halouf Lové dans ce soja. Ta gueule de connard laqué, tu kiffes le karaoké. Tachi sashimi au quasi, à vous l'Asie t'as bloqué. Si framat une dernière fois, mon faciès de Nyakwe. Karaté, karité, garaté, ça on va te niquer. Nishan Kombato.
C'était le titre chinoise de notre invitée de ce soir, Thérèse. Donc c'est un titre qui est sorti de l'album de 2021, Rivalité.
On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris.
On vient d'écouter Chinoise. Ça, c'est un titre qui est l'un de vos plus engagés sur les discriminations subies par les Asieux descendants. C'est un morceau qui est très mordant. Comment est-ce qu'il t'est venu? Je t'ai vouvoyé et tutoyé dans la même phrase, j'en suis bien consciente.
J'adore.
C'est pas grave.
C'est tout ce que j'aime.
On va faire comme les anglo-saxons, on va dire qu'il n'y a pas de différence. Voilà.
Et ben en fait, c'est marrant parce que cette chanson, elle est née en anglais uniquement, tout en entier. J'ai commencé à m'engager sur ces questions-là après l'événement de 2016 qui a beaucoup marqué les communautés asiatiques en France, qui était l'assassinat de Zhang Shaolin à Aubervilliers. Et en fait, ce meurtre-là avait mené à la première, il me semble, manifestation de personnes asio-descendantes en France, place de la République. Alors, j'y étais pas, pour le coup, mais j'avais vu les images et j'avais vu notamment pas mal de témoignages, dont celui de Grace Lee, celui d'Anthony Chélan, qui était à l'époque directeur, de la... je sais plus comment on appelle ce poste, mais il travaillait pour Click. Il était à la plus ou moins à la prog, quoi, au contenu éditorial. Et voilà, et d'une DJ aussi. Et ça m'avait vachement touchée. Parce que je crois que j'ai réalisé cette année-là que pour la première fois, des gens que je ne connaissais pas disaient très très haut ce que j'avais ressenti toute ma vie et que j'avais intériorisé, que j'avais jamais osé dire. Du coup, j'ai commencé à me rapprocher de ces personnes-là parce que je me suis rapprochée de ces personnes-là et tout ça s'est fait entre 2017 et 2018. Ça a été assez rapide. Les gens, je pense, étaient tellement émus qu'on a, ressenti ce besoin de se regrouper, de se rencontrer, de pouvoir essayer de discuter ensemble déjà pour partager cette peine, ces peurs aussi, et autres frustrations et colères. Et ça a été touchant parce que on sentait justement qu'il se passait quelque chose. Et donc, je me souviens avoir écrit cette chanson entièrement en anglais, qui s'appelait Slanted Eyes. Et je l'avais joué lors d'un nouvel an lunaire. J'avais été invitée à chanter à la mairie du 13e par Daniel Tran, qui faisait partie à l'époque, qui était président de l'AJCF, donc l'Association des Jeunes Chinois de France. Et suite à cet événement, j'avais rencontré tout plein d'autres personnes. Puis j'avais laissé le morceau dormir parce que j'avais un peu dit ce que j'avais à dire en anglais. Donc je ne sais pas qui avait vraiment compris mes paroles. Moi, j'avais l'impression d'avoir dit. Et je me souviens que pendant le Covid, les violences se multipliaient partout, envers des adultes, mais aussi des gamins et des gamines qui se faisaient fracasser à l'école parce qu'ils ou elles étaient asio-descendanteux, alors que finalement, c'était des personnes françaises qui n'avaient pas bougé ni de leur village, ni de leur ville, ni de leur école. Et on les accusait d'avoir le Covid, d'amener des maladies, etc. Parfois, ça n'allait même pas aussi loin, c'était juste simplement... de la violence pour la violence. Et en fait, moi, ça m'a paru totalement insupportable. Et je me souviens que pendant le confinement, j'étais justement en train de faire ce switch où j'avais envie de passer de la vague au projet Thérèse. Et j'ai commencé à composer un peu en scred sur mon ordi. J'avais installé Ableton que j'avais jamais ouvert. Et je m'étais fixé le défi de faire un son par jour pendant une semaine.
Ambitieux.
Pour rigoler. Ouais, pour rigoler. Et finalement, c'est ce qui a donné mon premier EP, Rivalité. C'était en tout cas les maquettes un peu niveau CE1, CE2 que j'avais commencé à faire. Mais certes, il faut bien démarrer. Et parmi ces chansons, il y avait donc Slanted Eye. Donc c'était l'ancêtre de Chinoise et je l'ai fait écouter en fait à mon ancien label qui est devenu mon nouveau label, enfin bref on a continué ensemble sur la vague et en fait lui et Adam qui est donc mon co-compositeur et prod m'ont dit en fait cette chanson elle tue Thérèse et on est en France et si tu veux vraiment que les gens te comprennent et comprennent ton combat il faudrait essayer de la passer en français. Et c'était pas facile parce que c'est pas facile de traduire une chanson qui a été écrite dans une langue, dans une autre. Du coup, la chanson finalement ne se ressemble pas forcément. Mais je suis hyper contente de l'avoir fait parce que d'une part, effectivement, on me comprend. Et de deux, je me suis rendu compte quand même que rien ne vaut sa langue maternelle. Même si je parle très bien anglais, je pense que je suis encore plus précise. Et surtout sur des sujets comme ça, c'est important en français. Et donc voilà, et donc c'est comme ça qu'elle est sortie, un peu par hasard finalement, parce que j'avais écrit ça pendant le confinement. Et à un moment donné, j'ai senti le besoin de la sortir. Donc elle est sortie en décembre, si je ne dis pas de bêtises, 2021.
C'est ça.
Et en fait, j'avais très très peur de la sortir, mais vraiment très très peur. J'avais même envoyé le texte à Grassley pour qu'elle le lise, donc Grassley qui est une militante et qui partage le podcast Kif Taras avec Rokaya Thiago, qui est aussi blogueuse, food, etc., et aussi autrice. Et j'avais aussi envoyé ça à mon cousin Franck, qui est donc le comte Décolonisons-nous. Entre-temps, il s'est outé, parce qu'à l'époque, personne ne savait qui c'était, Franck Lao. Et je leur avais demandé leur avis sur le texte. Et j'ai envoyé ça aussi à d'autres potes racisés, etc. Et Grasse avait eu la grande sensibilité et intelligence de me répondre, Thérèse, en fait, ce texte, c'est toi. Et tu parles en ton nom, en tant qu'artiste. Et moi, comme j'avais l'habitude, effectivement, de prendre la parole en tant que militante, j'avais toujours l'impression de devoir parler au nom du groupe. Mmh. Et là, elle m'a dit, mais fais-le, en fait. Le propre d'un ou d'une artiste, c'est d'être libre de dire ce qu'il ou elle pense. Donc go. Et donc, j'avais sorti le texte comme ça. Et j'avais... Mais jamais j'aurais imaginé... qui est un tel retentissement, mais vraiment jamais, jamais. Au bout d'une semaine, je passais sur Quotidien, Canal, j'ai fait une émission avec Tadi, enfin c'était n'importe quoi, France 5, j'ai fait plein de radios, enfin c'était fou. Et c'était absolument pas calculé, j'avais vraiment écrit ça rageuse toute seule dans ma chambre, dans mon 35 mètres carrés à Paris, parce que je voyais des trucs horribles dans les infos, enfin aux infos et sur les réseaux sociaux. Et voilà, enfin bref, ça a été effectivement, il y a eu un écho auquel je ne m'attendais pas du tout.
Eh bien merci, merci de l'avoir traduit et de l'avoir fait. Et plus fort que ça, plus fort qu'un morceau, tu es allé encore plus loin, puisque tu as décidé de prendre le problème à bras le corps et de fonder un réseau qui s'appelle Tiger Bomb. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement?
Oui, bah ouais. J'ai esquissé les prémices de ce bout de conversation tout à l'heure, mais c'est vrai que... Bah, en France, c'est pas facile de se faire une place dans l'industrie de la musique quand on est une femme, quand on est très intersectionnelle et encore moins quand on est... c'est encore plus dur, je veux dire, quand on est asio-descendante. Et en fait, j'en avais marre. Je me disais, mais moi, je vois sur les réseaux et je rencontre des personnes qui sont originaires du Vietnam, du Japon... je sais pas, du Cambodge, de plein d'endroits en fait différents, et même d'Asie du Sud, enfin d'Inde, du Pakistan, tout ça, qui sont des artistes super talentueux et talentueuses, et on n'en entend jamais parler. Et donc, force d'expériences passées et présentes, là tu vois par exemple, moi je fais partie d'une sorte de nébuleuse qui s'appelle la Chrysalide, qui a été fondée par une artiste qui s'appelle Kelly Boy, qui est productrice, et elle est DJ aussi, elle accompagne d'autres personnes sur scène, et en fait elle a créé cette nébuleuse, et ça m'a beaucoup inspirée de comprendre comment le groupe et le collectif pouvaient être bénéfiques en fait à nos carrières d'artistes, et notamment d'artistes indépendantes. Et du coup, je me suis dit, bah pourquoi pas un peu à ma façon, répliquer ce modèle pour pouvoir se donner de la force entre nous, pour pouvoir, d'une part, déjà tout simplement nous connaître, parce que, en fait, je me suis rendu compte que les artistes asio-descendantes ne s'identifiaient même pas dans l'industrie. Donc, je pense que c'est dommage. Donc, voilà, je crois que j'aime bien rassembler aussi. Du coup, j'aime bien créer des crews de toutes sortes. Là, c'en était un autre. Et d'autre part, de pouvoir se donner des tips sur plein de choses, sur des choses juridiques, par exemple, des choses admin, savoir quand il y a des appels à projets ou telle ou telle demande de sub qui sont déposables, se dire, ah bah, il y a telle salle qui cherche tel type de groupe ou pour tel type de musique, ah, si tu en entends parler, est-ce que tu peux me faire passer, etc., etc., pour pouvoir aussi s'échanger les publics. Et pourquoi pas faire des collaborations s'il y a des affinités, j'oblige personne à rien faire. Et c'est pourquoi je ne l'appelle pas nécessairement collectif, mais plutôt réseau d'entraide, parce qu'en fait, les gens font ce qu'ils veulent dedans. Enfin, vous venez si vous en avez envie, si vous avez envie d'aider, vous aidez. Oui, là, j'ai trouvé quelques personnes qui sont bénévoles, qui ont envie de m'aider effectivement à faire grossir le truc. Si vous n'avez pas envie, pas le temps, ou que ce n'est pas le moment, bah, ce n'est pas grave. Moi, je le fais pour qui veut, en fait. Et voilà, et je pense que c'est important de se serrer les coudes dans une époque et une industrie qui tend à diviser beaucoup les gens, à les isoler aussi, et à mettre dans la tête de chacun chacune que justement il y a cette histoire de compétition. Moi, j'ai beaucoup cru pendant longtemps qu'il y avait de la place que pour une seule artiste asiatique en France, et j'avais presque l'intention d'inconsciemment faire de la rétention d'informations, etc. Parce que je me disais, bah ouais, mais si c'est une autre qui prend ma place, et ben moi, je pourrais plus exister. En fait, je serais mis sur le banc de touche. Et le fait est que avec le temps, je pense très différemment. Je me suis rendu compte, en fait, qu'il y avait de la place pour tout le monde et que c'est l'industrie qui était étriquée. Mais moi, en tant que consommatrice, je peux aimer autant, je sais pas, Rihanna que Beyoncé. Et pourtant, elles ont, en apparence, elles jouent dans la même cour.
Ouais.
L'entraide, et en fait, on peut les aimer l'une autant que l'autre. Pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'il n'y en ait qu'une seule ?
Il y a de la place pour tout le monde.
On peut consommer plusieurs choses à la fois. Et ça, il ne faut pas l'oublier, je pense. Et c'est important de pouvoir s'entraider. Voilà, peu importe les intersectionnalités ou pas, d'ailleurs. Hein. Moi, je ne suis pas que pour la non-mixité, mais je pense que la non-mixité, à certains endroits, peut faire gagner du temps et aussi soigner des blessures qui sont propres à certaines communautés. Je ne milite pas que pour la non-mixité, mais je pense qu'elle est utile à certains endroits. Donc c'est pour ça que Tiger Bomb existe. Et d'ailleurs, le nom, c'est un petit clin d'œil à Tiger Balm, donc le baume de tigre, oui, qui pour moi est le baume qui soigne tout. T'as mal à la tête, tu mets du baume. T'as envie de vomir dans le métro parce que ça pue, tu mets du baume sous ton nez. Enfin,
vraiment, je ne savais pas qu'on pouvait l'utiliser comme ça. Et en parlant de soigner, je suis désolée, c'est passionnant, mais on aimerait continuer à écouter un autre de tes morceaux pour parler justement du soin et d'une autre facette de ta carrière qui nous intéresse beaucoup.
Je suis dans le sas, je trouve pas le bouton. Chienne de garde à la fois mouton. C'est moi le roi, la reine et le bouffon. Pas de réponse, moi j'aime que les questions. Comme une ado amoureuse, j'attends que le téléphone sonne. Qu'on dise que c'est mon tour, la vie dira en quoi je me transforme. Je crois pas aux super-héros, je crois qu'au Pokémon. Sentimental au poker, j'ai trop souvent eu peur de perdre. J'ai jamais compris la diff entre remords et regrets. J'ai l'impression d'avoir une épée de Damoclès au-dessus de ma tête. D'avoir imaginé plus de morts que j'ai eu de vie. Et c'est chelou en fait de se rendre compte que la vie peut tenir à un coup de fil.
Je suis tendue, je suis serrée, je suis gainée, je suis collée. J'arrive plus à gueuler, plus rien à pleurer. Je suis
écouter un troisième morceau de Thérèse intitulé L'Attente, sorti dans l'album éponyme paru en mars 2024. Alors Thérèse, tu n'as pas peur de parler de tes émotions, de tes combats, mais aussi de ton corps. Et tu as une maladie génétique, donc il y a nécessité une greffe du foie, tu en as parlé, et mieux tu l'as chanté avec ce magnifique morceau qui est très émouvant. Alors Thérèse, raconte-nous comment est-ce qu'on chante la douleur et comment est-ce qu'on compose quand on parle de son propre corps qui doit se battre.
Waouh, est-ce que j'ai une réponse vraiment
Là, c'était une question Augustin Trapnard, on en a parlé.
tu as des bonnes réponses, alors il faut des bonnes questions.
Ouais. En fait, c'est très étrange parce que je crois que pour parler de son corps, il faut à la fois être à l'extérieur de lui-même et en même temps à l'intérieur de lui-même.
Il faut savoir s'en extraire par moment.
Ouais, complètement. En fait, moi, j'ai toujours l'impression d'être deux. Parce que je me regarde beaucoup de l'extérieur. Je me vois faire en fait des choses, je me vois évoluer. Parfois, je me regarde et ça m'énerve. Et parfois, je me regarde avec beaucoup de tendresse aussi. Et en même temps, parfois, c'est salvateur aussi de pas se regarder de l'extérieur et d'être dans son corps et d'être dans sa tête et d'être dans son cœur et d'être dans l'instant, quoi. Je pense que la vie, c'est un peu un aller-retour entre ces deux choses, mais aussi un aller-retour entre soi et les autres. J'ai l'impression de faire des phrases à la Jean-Claude Van Damme, c'est terrible.
Non, je vous rassure, c'est pas ce que ça donne comme impression à l'extérieur.
Il y a un moment où je pense, j'ai eu la sensation de juste pas avoir le choix. Pas du tout d'avoir été contrainte de le faire, mais il fallait que ça sorte. En fait, et je pense que c'est lié quelque part, attention, je vais aller un peu dans le méta là, mais je pense que c'est très lié à l'angoisse de mort. Et que je crois que c'est l'angoisse la plus fréquente et la plus commune à chaque être humain. Et je pense que en prendre conscience peut permettre de transformer beaucoup de choses et de prendre du recul justement sur sa vie, de prendre du recul sur ce qu'on ressent et pouvoir poser des mots. Moi, en tout cas, c'est l'angoisse de mort m'a permis d'avoir envie de vivre plus. Quelque part, ça m'a poussé aussi à la transmission. Moi, j'ai pas d'enfant pour l'instant et je sais pas si j'en veux. Mais je pense que tout artiste crée aussi parce qu'il ou elle a envie de transmettre quelque chose au monde. Je crois que j'ai compris à travers mon histoire et à travers l'histoire de l'humanité que la question du corps était centrale et que c'est finalement ce qui nous rassemblait le plus puisqu'on a tous et toutes un corps pour le moment. L'IA arrive, mais pour le moment, on a encore tous et tout un corps. Et c'est aussi ce qui nous divise. Et c'est aussi l'objet de toutes les discriminations. Et du coup, qu'elles soient psychiques, émotionnelles, mentales, financières, peu importe en fait, de santé ou de racisme, etc., toujours tout est lié au corps. Et je crois que prendre conscience de ça m'a poussée à ressentir la nécessité d'en parler. Et à travers tous les sujets, finalement, effectivement, il y a eu Chinoise, ça c'est sur mon enveloppe et sur mon identité qu'on essentialise. J'en ai parlé dans Toujours Trop sur la question de l'agisme et évidemment à travers l'attente, à travers Maladiva, à travers No Right Time par rapport à la question de la maladie. Parce que, en fait, c'est des sujets qui sont mis sous le tapis parce qu'ils font peur. Mais la maladie et la mort, quelque part, c'est le seul truc qui nous rend tous vraiment égaux. Et du coup, je crois que, ouais, je crois que qu'en parler, c'est essentiel. Et c'est pour ça que j'ai fini par le faire, ouais.
Dans un podcast aussi, j'ai l'impression.
Vous avez
créé un podcast, enfin, tu as créé un podcast dans lequel tu parles du thème de la santé des artistes, c'est ça?
Exactement, je suis en plein dedans là, je suis en plein enregistrement. D'ailleurs, c'était hilarant parce que hier j'ai enregistré deux épisodes et en sortant de ça, je me suis évidemment fait une entorse. Donc, je me suis pété la gueule par terre. C'est pour ça que je ne suis pas en direct avec vous ce soir sur le plateau. Je devais être là, mais je suis dans mon canapé parce que je repose ma jambe. Voilà, le droit au repos. et oui, donc je suis en train de monter ce podcast avec une copine qui est journaliste qui s'appelle Alexandra Dumont. Et on s'est rencontrés à travers le projet et elle a été notamment la deuxième journaliste à m'interviewer sur cette question de la transplantation. Et donc, un papier n'a pas suffi. On avait envie d'en parler encore pendant des heures et des heures et des heures et on s'est dit pourquoi on ne montrait pas un podcast. Et il y a un an de ça, un an et demi de ça, a germé cette idée. Et ça fait un an et demi qu'à côté de nos jobs respectifs, on planche sur ce podcast qui devrait voir le jour en début d'année 2025. Là. Donc voilà, je ne dévoile pas encore le nom. Il sera dévoilé le 6 décembre au Transmusical de Rennes. Mm-hmm. Et voilà, je vais en parler. Enfin, on en parlera toutes les deux à ce moment-là.
Super.
Et je pense que c'est vraiment essentiel parce que on est dans une société qui ne parle effectivement pas de la maladie et de la mort, mais encore moins chez les artistes parce que ils ont un statut qui est presque iconisé, comme si c'était des demi-dieux et que ces gens-là n'avaient pas le droit de. Alors si d'être un petit peu en mauvaise santé mentale, c'est un peu glamour. On glamourise le club des 27, alors qu'en fait c'est des jeunes qu'on a laissés crever. On les a laissés crever alors qu'ils étaient addicts à plein de substances. Personne ne les a aidés, etc. Et on trouve que voilà, l'histoire qu'on raconte aujourd'hui, c'est que c'est des petits génies qui sont morts trop tôt. Non, c'est des jeunes qu'on a laissés mourir trop tôt. Et du coup, voilà, l'idée, c'est de pouvoir désacraliser un petit peu le statut de l'artiste dans la société qui, je pense, fait beaucoup de mal à la fois aux artistes qui sont des êtres humains, mais aussi aux personnes qui les adulent parce qu'ils projettent, ils et elles projettent des choses sur des personnes qui ne peuvent pas remplir finalement leurs attentes. Et moi, quand je vois Stromae qui se fait insulter quand il annule sa tournée parce qu'il est en dépression, ça me rend malade en fait.
Mmh.
Et j'ai envie que les artistes puissent se sentir à l'aise d'être, pas tout le temps performant à 200%. J'ai envie qu'ils et elles puissent en parler et le droit au repos, que les personnes qui les entourent, l'entourage professionnel, autant que les proches, etc., prennent aussi soin d'eux, parce que c'est pas parce que, entre guillemets, on vit son rêve qu'on est infaillible et qu'on n'a pas des soucis, des angoisses, des maux à droite, à gauche, etc., des maladies à combattre, des dépressions à combattre aussi, parce que c'est un métier qui est extrêmement difficile, beaucoup plus que ce qu'on ne pense. Et aussi, j'invite le grand public à la fois se rendre compte de ça et de son mode de consommation et d'exigence par rapport aux artistes, mais aussi, j'espère que ça pourra ouvrir des débats dans la société et de détabouiser quelque part, je ne sais pas si ce mot existe,
ça existe
mais
oui.
Les questions de maladies dans la société, parce que je crois et je suis convaincue, comme pour tous les sujets, que plus on en parle, moins c'est tabou et en fait plus c'est normalisé et ça peut entrer à la fois dans nos mœurs, mais aussi dans la structure de la société.
Et
on pourra enfin prendre soin des gens.
Pardon. Ah, tu disais que les artistes sont vus comme des demi-dieux.
Oui.
Et c'est absolument parfait, puisque c'est le moment pour nous d'accueillir notre deuxième chroniqueuse, Chloé, qui tout au long de l'année nous offre des relectures féministes, justement des mythes antiques. Et aujourd'hui, justement, on parle d'un couple bien connu. Bienvenue, Chloé. De qui vas-tu nous parler aujourd'hui?
Eh bien, justement, c'est la venue de Thérèse, artiste complète. C'était l'occasion rêvée de revisiter le mythe sans doute le plus célèbre quand on parle d'un musicien. Je veux parler, bien sûr, du mythe d'Orphée et d'Eurydice. On peut y voir, au choix, une belle histoire d'amour qui dépasse les frontières de la vie ou de la mort, ou bien la preuve que dès l'origine de notre civilisation, il est formellement établi que dans le milieu artistique, le male gaze tue.
Ok, alors reprenons juste pour les gens qui nous écoutent. Tu peux nous rappeler ce qui se passe dans le mythe d'Orphée et d'Eurydice?
Alors Eurydice, c'est l'épouse d'Orphée qui meurt après avoir été mordue par un serpent. Orphée est inconsolable, il entonne une complainte si bouleversante que les dieux acceptent qu'il aille chercher sa bien-aimée aux enfers. Hadès, donc le roi des enfers, accepte qu'Eurydice suive Orphée, mais il pose une condition. Orphée ne doit pas se retourner avant de sortir des enfers. Et au dernier moment, évidemment, il se retourne et Eurydice disparaît à jamais. Ce qui a assuré la postérité de ce mythe, c'est sans doute qu'il offre un modèle parfait pour les artistes. C'est par son chant, c'est par sa lyre qu'Orphée bouleverse les dieux, la nature et même les morts. Donc quel artiste un peu ambitieux pourrait résister à l'envie de se comparer à lui ? En toute logique, il a inspiré un nombre incalculable d'œuvres, donc des opéras comme ceux de Monteverdi ou Gluck, des films, des pièces de théâtre et même une série qui vient de sortir sur Netflix et qui s'intitule « Chaos ». Pourtant, pour les Grecs, Orphée, c'était loin d'être un héros. Pour tout dire, c'était même plutôt un gros loser.
Orphée, un loser ?
Eh oui, parce que son mythe, c'est celui d'un échec. Il échoue à sauver sa femme par manque de courage. Dans le banquet de Platon, on prétend que les dieux le renvoyèrent bredouille des enfers parce qu'il se servit de son art pour se rendre vivant au royaume des morts. Les dieux vont même jusqu'à le punir puisqu'il finit par mourir déchiqueté par des bacchantes lors d'un sacrifice à Dionysos. Dans le banquet, il est comparé défavorablement à la reine Alceste. Elle, Alceste, c'est elle l'héroïne.
Attends, rappelle-moi, c'est qui Alceste ?
Alors Alceste, c'est la femme d'Admet, donc un roi à qui Apollon a accordé de ne pas mourir. Mais le dieu, il a à nouveau fixé une condition. Il faut qu'un mortel accepte de prendre la place d'Admet le jour de sa mort. Personne ne veut se dévouer, même pas ses propres parents. Mais Alceste, elle, se sacrifie pour son époux. Les dieux sont émus par son amour et par son courage et la ramènent à la vie. Pour Socrate, c'est clair, Alceste 1, Orphée 0. Orphée, il prétend qu'il aime Eurydice, mais pas au point de se sacrifier pour elle, comme Alceste pour son mari. Il la tue même une seconde fois, en se retournant alors que les dieux l'avaient enjoint à ne pas le faire. Il n'y a vraiment pas de quoi être fier.
Ok, donc un loser. Mais alors finalement, la pérennité du mythe d'Orphée d'Eurydice s'explique par le fait que c'est juste un artiste glorifié par d'autres artistes pendant des siècles.
Alors moi, ce qui me frappe vraiment dans ce mythe, c'est pas tant la puissance de l'amour que sa fragilité face aux dieux et à la faiblesse humaine. Parce que ce qui tue Eurydice, en définitive, c'est littéralement le regard de son mari, le male gaze d'un artiste, qui pensait pouvoir donner vie à la femme qu'il aimait grâce à son art, mais n'a fait que la détruire. Et Eurydice dans tout ça, on l'entend pas beaucoup, il y en a que pour Orphée, alors qu'on parle quand même du mythe d'Orphée et Eurydice. Et en fait, en préparant cette émission ce week-end, une idée m'est venue, et si Orphée s'était retourné exprès ? Parce que finalement, c'est l'absence d'Eurydice et c'est toute cette tristesse qui a nourri son art au point de lui donner le pouvoir d'émouvoir les humains, les bêtes et même les dieux. Et s'il préférait ce pouvoir que lui confère son âme, son art, et s'il préférait la célébrité et l'admiration de la foule à l'amour de sa femme, et si, in fine, il fallait qu'Eurydice se taise pour qu'Orphée vive à jamais.
Eh ben, ça laisse très songeuse. Merci beaucoup Chloé encore une fois pour cette passionnante revue du mythe d'Orphée et d'Eurydice.
On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris.
Il nous reste 4 petites minutes. On va vous poser une dernière question, Thérèse. Donc, en parallèle de vos multiples facettes dont on vient de parler, vous êtes podcasteuse, vous êtes conférencière engagée. Et je vais pas sauter en plein milieu de phrase parce qu'on n'en a rien à faire à ce stade. En plus du podcast sur la santé des artistes dont on vient de parler, tu es également donc conférencière engagée. C'est quoi ton thème de prédilection en tant que conférencière ? Est-ce que tu fais ça parce que la transmission pour toi c'est important, parce que tu peux pas faire du féminisme de terrain sans ça ?
Ouais, c'est impossible en fait. Je suis assez présente sur les réseaux, un peu moins maintenant, parce que je me suis rendu compte que mon pouvoir de transformation réelle se faisait dans la vraie vie. En fait, sur les réseaux, je vais parler une minute, les gens vont peut-être regarder 15 secondes, un reel ou quelque chose comme ça, une story, et puis ils vont passer à autre chose, et puis ils vont tomber sur des images de guerre, puis après sur des chats qui mangent des fraises, et puis après, etc. etc. Dans la vraie vie, je passe 1 à 2 heures, voire 3 avec des gens, et là, il se passe quelque chose. Et je pense que c'est hyper important de garder ça en tête, qu'au final, on n'est que des êtres humains, et que ce qui nous sauvera, c'est la présence des uns et des autres, c'est le fait de se reconnaître en tant qu'être humain, de pouvoir parler et de pouvoir discuter de nos différences, se rendre compte à quel point elles nous enrichissent, même si on n'est pas obligé d'être d'accord. D'ailleurs, on se ferait chier, je le dis souvent. Hein. Et j'aime à rappeler souvent, pendant ces épisodes de transmission, ces conférences, etc., j'ai pas de sujet de prédilection. En gros, c'est souvent le vivre ensemble. Mais ce que je préfère faire, c'est partir de mon parcours et souvent raconter cette petite anecdote au sujet de la greffe. Vous savez, en France, on ne sait pas qui est son donneur ou sa donneuse. On n'a pas le droit de le savoir.
Il y a l'anonymisation.
Exactement. Et donc, en fait, moi, je ne sais pas si cette personne, c'était un homme de plus de 50 ans, 6 aux cheveux gris, un boomer, ou est-ce que c'était une femme, est-ce que c'était une personne trans, est-ce que la personne était juive, est-ce qu'elle était musulmane, est-ce qu'elle était asiatique, est-ce qu'elle était petite, grande, grosse, j'en sais rien, en fait.
Et
je
ne
sais pas ce qu'elle mangeait au déjeuner, pour qui elle votait, mais je sais que cette personne m'a sauvé la vie. Et je sais qu'elle m'a sauvé la vie et qu'elle n'était pas seule. Il y avait aussi du personnel soignant qui ne savait pas qui j'étais, qui ont œuvré pour que je puisse continuer à vivre. Et ça, c'est le propre de l'humanité, il ne faut pas qu'on l'oublie, en fait. Ouais. Et quand on se rend compte de ce genre de choses et qu'on se rend compte en même temps qu'il y a des gens qui n'arrivent même pas à dire bonjour à leurs voisins, il y a de quoi s'inquiéter.
Ouais, effectivement.
Et du coup, j'ai juste envie de rappeler ça, qu'en fait, on est humain avant tout, qu'on a des différences, certes, mais que la question, ce n'est pas de savoir qui a raison, c'est de savoir comment on vit ensemble. Parce qu'on n'a pas le choix, on est là maintenant. Et donc, on se lève et on se casse, peut-être, mais moi, je me lève, mais je ne me casse pas, en fait. Je ne peux pas partir.
C'est une expression.
Et je suis juste là, et en fait, je ne peux pas partir. Parce que j'appartiens à ce pays, je suis née ici, j'y tiens. Il y a énormément de choses auxquelles je tiens, à la fois à Paris, parce que je suis parisienne, mais aussi en France. Je chéris ce pays parce que mes parents viennent d'ailleurs, et je vous jure que ce n'est pas plus rose ailleurs.
Et bah, merci Thérèse, ça donne vraiment espoir et on se rend compte que tu as plein de facettes pour montrer que tu te lèves, tu ne te casses pas et tu agis. C'est la fin de cette émission. Un très grand merci Thérèse d'avoir accepté notre invitation, même avec la cheville foulée et par WhatsApp. On était très heureux de t'avoir avec
nous. C'est pour ça que je ne peux pas me casser, c'est que je ne peux même pas marcher. Okay.
On rappelle que ton album L'Attente est disponible partout et que tu seras très bientôt en concert à Paris, le 20 novembre à l'Élysée-Montmartre, le 28 novembre au Ground Control, mais aussi à Bruxelles, le 14 novembre au FestiLab. Les dates seront annoncées bientôt sur tes réseaux sociaux.
Merci à tous. Sur les réseaux. Bisous, bisous.
Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On revient le 26 novembre prochain pour une nouvelle émission sur la littérature jeunesse féministe, antiraciste et LGBTQIA+, avec notamment l'éditrice et autrice Sarah Guélam. On vous en dit plus très bientôt. Merci Marion pour ton accompagnement. Merci à nos chroniqueuses Chloé et Alice et à notre réalisatrice Jeanne. On se retrouve le 26 novembre. En attendant, prenez soin de vous. Salut.